Voici le journal de Jérôme Cadet. Bonjour Jérôme.
Bonjour Eric, bonjour à tous. À la une ce matin, quand une ville se transforme en agent immobilier, Lure en Haute-Saône organise des visites de commerce, de logement aujourd'hui pour attirer de nouveaux habitants. Reportage à suivre. La France continue de harceler les djihadistes au Sahel, nous dira un expert militaire après la mort hier d'un soldat français au Mali. Primaire ou congrès, les militants Les Républicains choisissent le mode de désignation de leur candidat à la présidentielle aujourd'hui. Sujet très sensible. Et puis, ressentir la musique quand on est sourd, c'est possible. Découverte surprenante à la fin de ce journal.
Les invités de la matinale. Dans 20 minutes, Karine, vous recevrez...
L'écrivaine franco-marocaine Laïla Slimani. Elle lance ce week-end à Tunis le premier congrès mondial des écrivains de langue française. Rendez-vous tout à l'heure à 7h50.
Et puis à partir de 8h20, question ce matin à la ministre chargée du logement, Emmanuelle Wargon. Voilà un sujet qui ne fait pas la une des débats politiques.
Il est pourtant central pour des millions de Français. Comment revitaliser la France rurale? Question au cœur du congrès de l'Association des maires ruraux de France qui se tient jusqu'à ce soir. Le compte n'y est pas encore, a prévenu son président hier aux oreilles du Premier ministre Jean Castex, venu faire des annonces. Parmi les préoccupations, la perte d'habitants. Un exemple ce matin, Lure en Haute-Saône, 8100 habitants, 300 en moins en 6 ans, des centaines de logements vacants et des commerces vides en plein centre. La commune lance aujourd'hui une opération séduction pour faciliter les transactions immobilières. Reportage Martin Delacou.
La planche des Belles-Filles est à 30 km, la gare TGV de Belfort-Montbéliard à 40, la commune de Lure en pleine campagne met en avant 70 biens immobiliers. Olivia Fanny est propriétaire d'un petit immeuble avec boutique en bas et appartement à l'étage.
C'était un local que moi je n'exploitais plus depuis 2007. Là, le fait de mutualiser un petit peu tous les pas de porte, c'est vrai que je pense que ça va apporter un certain passage.
Pour faciliter les ventes, agents immobiliers, banquiers et artisans sont regroupés sur le parvis du tribunal. Emmanuel Daval a tenu pendant 9 ans un magasin de vêtements dans le centre de Lure, mais le Covid est passé par là.
J'ai fait le choix de cesser mon activité, donc ça devenait un peu compliqué. Et comme je suis quelqu'un de réfléchi, j'ai pris la sage décision, j'irai d'arrêter sur cette période qui pour moi est un peu critique.
Un plan de sauvetage des commerces de proximité s'imposait. Virginie Lutringer, conseillère municipale.
Au niveau des commerces, on a 16% de locaux commerciaux vacants, ce qui représente 31 locaux. Donc imaginez, dans les deux rues principales de la commune, visuellement, ça c'est un peu comme si on avait une vitrine sur deux de vide.
Au-delà des vitrines, aux rideaux baissés, Lure espère attirer de nouveaux habitants et l'éventail des logements est large. Cela va du studio au château.
Martin Delacou, là c'est un sujet pour tous les Français. Le prix de l'électricité au plus haut depuis 13 ans. En cause, selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, le marché unique européen de l'électricité, obsolète, dit-il. Bruno Le Maire estime que la France produit de l'électricité à bas coût avec le nucléaire et l'hydraulique, mais paye une facture trop élevée car les prix s'alignent sur ceux du gaz qui flambe en ce moment. Il veut mettre cette question au menu de la réunion de lundi entre les ministres de l'économie de l'Union européenne. Le pass sanitaire à nouveau contesté dans la rue aujourd'hui, 11e samedi de mobilisation. Ils étaient 80 000 manifestants le week-end dernier. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, 8107 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid, chiffre en baisse. Le nombre de contaminations par jour a été divisé par deux depuis le début du mois.
La mort hier d'un soldat français au Mali.
Dans la région de Gossi, tout près de la frontière avec le Burkina Faso, le caporal-chef Maxime Blasco, originaire de Grenoble, il avait 34 ans. Même si la France a annoncé le désengagement de sa force Barkhane au Sahel, cette perte prouve que l'armée continue de traquer les djihadistes. Voilà ce que souligne le général Dominique Trinquant, expert militaire, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.
Dans cette région, région des trois frontières, c'est là que les mouvements djihadistes, et en particulier le mouvement issu de Daesh, sévissent. Et donc la France met depuis le sommet de Pau une pression particulière. Elle a tué un certain nombre de chefs de ce mouvement, mais elle continue à parcourir le terrain à la recherche des mouvements djihadistes et de les harceler. C'est exactement le travail qui a été fait et bien probablement lors de cette rencontre, c'est à ce moment-là que le soldat, le caporal-chef a été tué. Ça rappelle que c'est un travail permanent, un harcèlement permanent pour arriver à rendre totalement instables, ces mouvements djihadistes, et permettent aux armées de la région, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, de réinstaller leur position dans cette région.
Maxime Blasco est le 52e soldat français tué au Sahel depuis 2013.
Une question politique à présent, Jérôme. Les Républicains vont-ils sortir du piège de la primaire?
La pomme de discorde entre les candidats depuis des semaines. Xavier Bertrand n'en veut pas, Valérie Pécresse la plébiscite. Les adhérents LR tranchent aujourd'hui. Ils ont jusqu'à 18h pour voter, choisir entre deux options. Anne Souhaitemont, une primaire ou un congrès.
Ils sont 80 000 et quelques, encartés à jour de cotisation, à pouvoir voter d'ici ce soir 18h. Option 1, une primaire restreinte, ouverte à l'ensemble des sympathisants qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre et acceptant d'être inscrits dans un fichier. Option 2, un congrès ouvert aux seuls adhérents. Pas de bulletin, le vote est électronique, les résultats seront donc annoncés en tout début de soirée, juste après la clôture du vote. A priori, peu de suspense, l'option congrès devrait l'emporter. D'après les résultats de l'enquête commandée par LR, 60% des sondés y sont favorables. D'autant que depuis quelques jours, les lignes ont bougé. Longtemps candidat solitaire, Xavier Bertrand a fait savoir qu'il pourrait accepter de solliciter le soutien du parti dans le cadre d'un congrès. L'option 2 permettrait donc de n'avoir qu'un seul candidat de droite à l'issue du processus début décembre. Inespéré après un été marqué par la multiplication des candidatures, de Valérie Pécresse à Michel Barnier en passant par Éric Ciotti.
Les Verts ont déjà choisi la primaire pour désigner leur candidat à la présidentielle. Les 122 000 inscrits votent à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mardi pour le second tour. Suspense total entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Dernier jour de campagne en Allemagne. Angela Merkel, au pouvoir depuis 16 ans, s'affiche aux côtés du candidat conservateur dans le fief d'Armin Laschet. C'est à Aix-la-Chapelle. Ils seront tous les deux ce midi. De son côté, le candidat social-démocrate Olaf Scholz a choisi Potsdam dans l'Est pour un dernier rassemblement. Il a pour l'instant la faveur des sondages avant les législatives de demain. Dossier complet sur ces élections allemandes sur franceinter.fr. Dans l'archipel espagnol des Canaries, le volcan Cumbre Vieja est à nouveau en éruption. Plusieurs quartiers de la ville d'El Paso ont été évacués. Les vols prévus à l'aéroport de La Palma ont été annulés. Mathieu de Taillac est le correspondant de France Inter en Espagne.
De nouvelles coulées de lave et de violentes explosions, autant de risques qui poussent les autorités à évacuer de nouveaux villages sur l'île de La Palma. La télévision publique espagnole, TVE, a rencontré plusieurs de ses habitants qui dorment là où ils peuvent. Dessy, par exemple, parti avec sa famille se réfugier dans une caravane.
C'est l'enfer, tous les enfants crient, tout le monde est nerveux, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quand ça va se terminer. Si on perd notre maison, on perd tout.
Alberto, lui, se fait héberger chez son oncle et sa tante. Il ignore combien de temps il y restera, il sait simplement qu'il ne pourra pas rentrer chez lui.
J'ai l'impression d'être un mort-vivant. Tout le parcours d'une vie, toutes tes affaires, tous les gens que tu connais, tout est parti en fumée. Je veux m'éloigner de tout cela.
Le paradoxe dans une île touristique, c'est que les logements manquent. De quoi consterner les victimes du volcan. Tadeo a dû abandonner sa maison dans la commune de Todoque.
Ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que des touristes arrivent d'ailleurs et occupent les gîtes, les hôtels, et que les gens ici qui ont besoin d'un toit ne trouvent pas d'endroit où dormir.
Les arrivées de visiteurs risquent de se tarir. Trois compagnies aériennes, Iberia, Binter et Canard Fly, ont suspendu hier tous leurs vols vers La Palma. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
Et on termine avec ce constat, Jérôme, on peut être sourd et aimer la musique.
Oui, l'accessibilité des personnes sourdes à la musique a beaucoup progressé ces dernières années. C'est aujourd'hui la Journée mondiale des sourds, l'occasion de parler de ces dispositifs qui leur permettent d'apprécier concerts et spectacles de danse. Alexis de Meyer a testé pour nous.
Ressentir la musique dans une salle de spectacle ou sur une piste de danse malgré sa surdité, c'est possible grâce à des gilets vibrants conçus à l'origine pour les gamers, les adeptes des jeux vidéo. En France, le Théâtre National de Chaillot est précurseur. 30 gilets vibrants sont à disposition des spectateurs sourds. Jérôme Sala est en charge de ce projet à Chaillot.
Il y a deux positions pour le porter, soit en sac à dos, soit en position ventrale. Et après, il y a simplement activé le récepteur qui équipe chaque gilet et qui est relié à l'émetteur qui est installé sur la console son. Après, chaque spectateur est autonome dans l'intensité des vibrations qu'il veut ressentir au cours du spectacle.
Au autre dispositif, le chansigne, qui consiste à traduire en langue des signes les paroles d'une chanson au rythme de la musique. Pionnière en France il y a 20 ans, la chansigneuse Letty Tual officie notamment sur l'événement hip-hop symphonique produit par nos confrères de Move.
Lors d'un concert, tout comme le chanteur ne va pas utiliser cette voix monotone de la discussion, mais va plus faire travailler fortement ses cordes vocales, et bien moi dans le chansigne, je vais plus travailler avec tout le corps en fait, de mes orteils jusqu'à la racine des cheveux.
Cette pratique très physique, inventée aux États-Unis dans les années 70, se développe en France depuis quelques années. Une dizaine de chansigneurs sont désormais en activité.
Hip-hop symphonique chansigné, donc ce sera le 20 novembre prochain à l'auditorium de Radio France.
Et Jérôme Cadet pour le journal. Merci Jérôme. Le temps de ce samedi.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Jean-Michel Golinski avec des températures plutôt élevées pour la saison.
C'est vrai, mais le revers de la médaille, ce sont les orages qui vont survoler une grande partie du pays en dehors du nord de la Seine. Les orages les plus forts sont attendus sur les régions méridionales avec de fortes précipitations, même de la grêle entre le sud-ouest et le Limousin. Puis en fin d'après-midi soirée, du Languedoc au Val-de-Saône avec des pluies importantes, notamment sur le Gard et l'Hérault. Cette nuit et demain, on va retrouver ces forts orages entre le Jura et l'est du Rhône avec de fortes pluies sur la région PACA. On notera qu'aujourd'hui, des orages plus isolés vont remonter jusqu'à la Bretagne, le Val-de-Loire, le bassin parisien, la Bourgogne et l'Alsace.
Jean-Michel Golinski, Météo France.